Chers amis auditeurs, bonjour pour ceux qui nous écoutent en différé, bonsoir pour ceux qui nous écoutent en direct. Voici un mois déjà, nous abordions la Roumanie, ses brumes, ses Carpates, son Danube, ses vampires, son grand drame. Codreanu, le premier, un fascisme roumain, et le grand désordre politique de l'entre-deux-guerres. Lorsqu'on évoque la Roumanie au XXe siècle, surgissent des clichés, et puis un nom, aussitôt, qui revient, Nicolae Ceaușescu. Le dernier grand dictateur communiste européen, un personnage devenu presque légendaire, tantôt tyran grotesque, enfermé dans son palais de Bucarest, presque réhabilité par certains comme le défenseur obstiné de l'indépendance nationale roumaine face à Moscou. Une question toutefois demeure, que fut réellement cette Roumanie communiste? Comment un pays rural, orthodoxe et profondément attaché à son identité a-t-il pu devenir l'un des laboratoires les plus singuliers et terribles du communisme européen? Pourquoi la chute de Ceaușescu fut la seule sanglante? Comment a-t-on pu faire durer en Europe un système totalitaire, culte religieux de la personnalité entre Staline et Kim Jong-un? Et surtout, comment les écrivains, les poètes, les philosophes, les romanciers ont-ils vécu cette aventure, ce drame politique hors du commun? Car l'histoire du communisme roumain ne se lit pas seulement dans les archives du parti ou les rapports de la Securitate. Il y a les romans de Marin Pedra, les vers de Nikita Ștănescu, dans les enthousiasmes d'Adrian Ponescu ou les méditations de Constantin Noica, dans les combats de Paul Goma ou les chroniques de Monica Lavinescu. Elle se lit dans les œuvres de ceux qui ont cru, de ceux qui ont servi, de ceux qui ont résisté, de ceux qui ont choisi l'exil. Ce soir, nous allons donc parcourir cette histoire du communisme roumain de Nicolae Ceaușescu à travers ses hommes, mais aussi à travers ses livres. Nous recevons ce soir, pour cette auguste discussion, un parterre d'invités de choix, qui d'ailleurs va m'écouter et non pas regarder son portable. Florine Pescu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous revenez, vous assisterez pendant toute la série roumaine, qui devrait durer encore plusieurs
mois.
Merci
pour l'invitation.
Jérôme Bénard, écoutez-nous.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes le fondateur de l'émission et nous vous recevons ponctuellement, pour peu que vous approchiez du micro, s'il vous plaît.
Oui.
Merci. Et vous nous parlez ce soir de...
Je vais vous parler notamment d'un philosophe très méconnu en France, Constantin Noica, qui a dû subir les foudres des gouvernements communistes successifs à partir de la libération jusqu'à sa mort en 1987.
Et vous connaissez la Roumanie?
Oui, je la connais familialement et je la connais pour m'y être rendu un certain nombre de fois, y avoir rédigé des reportages voilà, pour l'excellent mensuel L'Incorrect, également pour Le Figaro.
Ma chère Marilena.
Bonjour.
Bonjour. Poétesse roumaine, traductrice, nous avions écouté la dernière fois, vous avez pu lire des poèmes de votre création, ou encore des poèmes épiques de l'histoire roumaine. Et nous recevons, et nous sommes ravis de vous recevoir à nouveau ce soir. Nous aborderons d'abord le Ceaușescu avant Ceaușescu. Traian Sandu, qui se fait attendre, et qui est, je crois, embourbé dans les embouteillages, dans un métro qui fonctionne au moins aussi bien que dans le Bucarest de la grande époque, aurait pu effectivement nous parler du maréchal Antoniescu et de la Roumanie pendant la guerre, point sur lequel nous étions arrêtés en dernière émission. Peut-être Jérôme Bénard a-t-il quelque chose à nous dire sur cette période terrible de la Roumanie pendant la guerre. Une armée roumaine embrigadée dans Barbarossa, qui a été saignée sur le front de l'Est, un maréchal Antoniescu qui est un pétain roumain. Quelle guerre a fait la Roumanie, Jérôme Bénard?
Elle a fait une guerre très complexe, puisque la garde de fer dont vous avez parlé la semaine dernière est vite apparue aux yeux et d'Antonescu et des Allemands comme un mouvement séditieux qu'il fallait liquider. Ils se sont empressés de faire dans les années 1940-1941, hein, je ne me trompe pas. Florine me corrigera sinon. Et ensuite, il y a eu l'engagement des troupes roumaines du côté allemand pour l'invasion de l'URSS jusqu'à Stalingrad, où d'ailleurs les historiens militaires considèrent que les Roumains sont loin de s'être déshonorés et que leur appui aux troupes allemandes fut de très bon niveau. On oublie que la Roumanie est un pays essentiellement guerrier. Je discutais un jour avec des conseillers du Premier ministre Orban et qui me disaient la différence entre les Roumains et nous, c'est qu'ils sont naturellement portés vers l'armée, ce qui n'est pas le cas des Hongrois. Et effectivement, aujourd'hui, l'armée hongroise est réduite à quelques régiments qui font figure de témoins, l'armée hongroise ayant été totalement décapitée au lendemain de la Première Guerre mondiale, tandis que la Roumanie, même si ses équipements mériteraient d'être modernisés, a su conserver une tradition militaire sous les régimes successifs, y compris sous le régime communiste.
Qui était le maréchal Antoniescu? Une sorte de pétain roumain? Un pion des Allemands?
Plus compliqué que cela. Il est apparu. Il y a eu une sorte d'effondrement politique, de crise dans les années 30 en Roumanie. Il y a eu des crises successives des gouvernements libéraux qui étaient incapables comment dire, de corriger un certain. La Roumanie, même si elle s'était un peu industrialisée, la Roumanie restait un pays essentiellement rural et où la grande question sociale de l'entre-deux-guerres était la question de la redistribution de la propriété des terres et d'arriver à un équilibre entre les grandes familles propriétaires, les descendants de boyards et les petits paysans. Et donc, toutes les crises sociales successives étaient souvent dues à un malaise dans les campagnes. Vous rajoutez le problème des frontières de la Roumanie avec la pression des Russes qui voulaient la Bessarabie, la pression des Bulgares qui voulaient une partie de la Dobrodja, donc la partie du delta du Danube. Voilà, si je dis des
Oui,
erreurs.
je peux intervenir si vous me
Marie-Léda,
permettez,
bien sûr.
parce que d'abord, il y a eu une entente, un accord très convivial entre M. Staline et M. Hitler, 1938 et 1939. Et lors de ces rencontres, ils ont signé, ils se sont mis d'accord sur le partage de l'Europe. Et alors, suite plutôt au traité de 1939, en 1940, la Roumanie a perdu. Le 30 août 1940, elle a perdu le nord de la Transylvanie, piquée par les Hongrois qui ne sont pas
Alors,
si
on ne va pas
passifs.
refaire l'émission la dernière fois. Il y a aussi, je crois, un drame roumain pendant l'occupation. Hannah Arendt, dans Haschmann à Jérusalem, parle de la Shoah en Roumanie comme étant un événement particulièrement brutal et quasiment un événement endogène, en fait, qui n'a même pas eu besoin de la planification à Wannsee ou d'ordre de Berlin.
C'est ce qu'on a appelé notamment les massacres de Transnistrie, les massacres en actuelle République de Moldavie. Effectivement, des dizaines de milliers de Juifs ont été tués en quelques jours. Il y a eu un déchaînement des passions antisémites. Bien entendu, la Roumanie, comme d'autres pays européens, était très perméable à des courants antisémites. Ils se sont déchaînés, effectivement, sans avoir besoin de la pression allemande qui, par exemple, s'exercera en Hongrie. À l'extrême fin de la guerre, là, les Roumains ont devancé les exigences des Allemands. Enfin, le gouvernement, pas la population, mais tout de moins certaines fractions politiques radicales.
Alors, nous recevons Trajan Sandu qui vient d'arriver, on l'a dérobé. Nous sommes également en ligne avec Mario Varro qui je crois, avec nous. Bonsoir Mario.
Bonsoir.
Vous parlerez littérature, je vous signalerai au bon moment. Cher Trajan Sandu, vous voici. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous revenez après un mois et le mois dernier, vous parliez effectivement de la Roumanie avant-guerre. Nous parlerons de la Roumanie après-guerre. Il nous reste à parler de la Roumanie aussi pendant la guerre, et notamment de cette figure de Ceausescu. Avant Ceausescu, avant l'invasion soviétique, avant que la Roumanie devienne une démocratie populaire, existait-il, cher Traian Sandu, un socialisme roumain? Existait-il un parti communiste roumain structuré? Combien de divisions?
Si je voulais un peu personnaliser la chose, si je voulais un peu personnaliser la chose, je vous dirais que le premier secrétaire général du Parti communiste roumain a été aussi le parrain de mon père. Je ne plaisante pas d'ailleurs, mais simplement, il faut savoir qu'il y a eu effectivement un Parti communiste roumain comme partout, donc il y a eu une partie des socialistes qui se sont ralliés à la Troisième Internationale. Il se trouve que ce monsieur, de son métier, est matelassier. Matelassier Christescu, voilà. En fait, il a quitté avec perte et fracas le Parti communiste roumain en 1926, avec une lettre ouverte à Staline, qui expliquait qu'il ne pouvait pas rester au sein du Parti communiste roumain parce que, précisément, ce parti était trop aligné sur le Parti communiste soviétique, ce qui faisait quand même partie des exigences des 21 points de Lénine et de Zinoviev de 1921, décembre 21. Donc, c'était un peu normal et il ne le découvrait pas. Mais il a rompu avec pères et fracas parce que précisément, le Parti communiste roumain était aligné sur le Parti communiste soviétique qui demandait la désannexion ou du moins la soumise à référendum des
régions ou des régions annexées, des régions réunies, pour ne fâcher personne, hein, notamment la Transylvanie, la Moldavie, l'actuelle République moldave, hein, Bessarabie à l'époque, Dobroudja éventuellement. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il y avait un parti communiste roumain issu du Parti socialiste, vieux Parti social-démocrate, qui était traversé par tous les débats que connaissait le communisme international. Et je vous donne donc cet exemple du premier secrétaire général du Parti communiste roumain, auquel j'ai paraît-il été présenté en 1968, hein, toujours pour personnaliser
petit.
Les choses. Mais il a fini en prison, puis Ceaușescu l'a sorti de prison à l'époque du national-communisme, en 64. Donc il y avait un parti, ils n'étaient pas très nombreux, mais... Il y a débat, hein, parce qu'évidemment, c'est traditionnel de dire qu'il n'y avait que 8000 membres en 1944. En réalité, comme il était interdit depuis 1924, eh bien, en réalité, il y avait des militants qui étaient cachés, qui étaient dans l'aile jeune du Parti social-démocrate qui lui était autorisé. Et donc, si vous voulez, les militants communistes étaient plus nombreux que ce qu'on a bien voulu le dire lorsqu'on a présenté un parti communiste complètement inexistant en 1944 et sorti de nulle part.
Mais... Cher Marie-Lella, ce parti communiste, ce parti socialiste, attirait, je crois, précocement des intellectuels, des écrivains.
Alors, j'aimerais évoquer le nom de Panaitis Rati.
Sur lequel nous réservons une émission.
C'est magnifique, félicitations, c'est un choix très juste. Alors, Panaitis Rati était socialiste, un adhérent, parce qu'il est issu d'une famille, sa maman était ouvrière, et le papa est mort le moment où Panaitis Rati était encore très jeune. Je souhaite mettre en évidence le fait que Panaitis Rati était polyglotte. Il parlait le turc, le roumain, le grec, avant de commencer à voyager. C'est un grand voyageur. Il est arrivé en France au début du XXe siècle, où il a fait vraiment son début en français.
Et socialiste.
Et socialiste parce que et le fait qu'il était socialiste l'a poussé, après la visite des intellectuels français rendue à M. Staline, c'est Panaitis Rati qui va en l'Union soviétique 1929. De retour en France, Panaitis Rati va écrire ses impressions et il parle ouvertement, sincèrement, du désastre qu'il a observé dans l'Union soviétique, qui était loin d'une démocratie. Alors, qu'est-ce que se passe? Tous les intellectuels français, se sont unis contre lui et l'ont marginalisé.
Et l'ont confiné à un oubli que nous tâcherons de réparer. Voilà. Vous m'avez parlé également d'un certain Eugen Livonescu.
Alors, Eugen Livonescu est un très important critique littéraire, romancière, dramaturge, biographe, journaliste roumain de fin de 19e siècle et début du 20e siècle. Il est important pour le contexte de notre dialogue, d'abord parce qu'il est lié à la France. Durant 3 ans, il a habité en France pour préparer son doctorat avec le thème Jean-Jacques Weiss et son œuvre littéraire, sous la direction d'Émile Faguet. Après, il est fondateur d'un cénacle littéraire, Sburetorul, avec une revue littéraire. Et là, dans ce cénacle, il a accueilli et formé toute une pléiade des écrivains qui vont créer le phénomène littéraire en Roumanie tout au long de la première moitié du XXe siècle et bien après la deuxième moitié du XXe siècle. Aussi, il est le papa de Monica Lovinescu, très connue, grâce à sa voix magnifique et critique au micro de la radio Europe Libre, ainsi que le beau-père de l'écrivain Virgile Yerunka, persécuté lui aussi par le régime stalinien de Roumanie, et époux de Monica Lovinescu. Tous deux ont réussi à quitter la Roumanie.
On a effectivement ce parti communiste qui agrège. Trajan Sandu nous a dit qu'il était peut-être un peu moins marginal que ce qu'on en a fait. Il y a également une génération d'intellectuels perméable au socialisme, un peu comme partout en Europe. Et puis nous avons effectivement ce basculement de la Roumanie dans le communisme, qui est un phénomène un petit peu complexe que pourrait nous rapporter Trajan Sandu. On parle souvent du coup de Prague, de la tactique du salami. Je crois que le cas roumain, pour ce qui est de son devenir de démocratie populaire, mérite attention. Comment la Roumanie devient-elle une démocratie populaire ?
Finalement assez, de façon assez classique, hein, comme vous l'avez dit, de la tactique du salami, des infiltrations fonctionnent aussi dans le cas roumain et Nicolae Ceaușescu. Et de ce point de vue, détaché finalement, et il reçoit la mission d'infiltrer la jeunesse des autres partis et de l'attirer vers l'aile jeune du Parti communiste. Donc le cheval de Troie fonctionne, la tactique du salami également.
Mais parce qu'il y a le roi, je crois, qui reste.
Oui, il y a le roi qui reste, donc effectivement, il essaie d'agréger un tout petit peu l'opposition et de créer un équilibre avec les partis classiques, les partis traditionnels de l'entre-deux-guerres, Parti national libéral, Parti national paysan, et de créer autour de lui une sorte de dynamique qui rééquilibrerait le Parti communiste. Oui, effectivement, il y a parfois une manifestation, je ne me souviens plus de la date exacte, favorable au roi et défavorable au Parti communiste, avec des suivis d'arrestations, notamment d'étudiants, et une espèce de chantage effectué sur le roi. Le roi essaie effectivement de se mettre aussi en contact avec les représentants des puissances occidentales, américains et anglais, mais cela ne fonctionne pas très bien, puisque vous savez que lors du partage des pourcentages entre Staline et Churchill.
Il obtient 10% de la Roumanie, quoi.
Voilà,
qu'est-ce que ça veut dire, 10%
de
la Roumanie ?
Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, en fait, d'une certaine façon, Churchill a acté le fait que la Roumanie est tombée dans l'escarcelle soviétique. Et, effectivement, elle est très importante pour Staline, moins importante que la Pologne, évidemment, ou que l'Allemagne de l'Est, mais elle reste quand même très importante, puisque c'est un pays limitrophe. La Moldavie a été réannexée par l'Union soviétique, hein, l'actuelle République moldave, et donc la Roumanie est limitrophe de l'Union soviétique. Ne peut pas se permettre d'y laisser un régime autre que communiste.
Avant que cette démocratie populaire ait à sa tête Ceaușescu, il y a le fameux Dej, je crois.
Oui.
Alors, qui est ce fameux Dej ? Un autocrate ? Un primus inter pares apparatchik ? L'homme de Moscou ?
Tout le monde est l'homme de Moscou en 1944-45 dans cet espace, mais on fait des distinctions un peu subtiles entre les moscovites qui sont rentrés dans ce qu'on appelle le régiment Tudor Vladimirescu, formé en Union soviétique de réfugiés roumains, souvent venus de l'internationale communiste, qui sont passés par la guerre d'Espagne, souvent appartenant aux minorités nationales, notamment aux juifs, et on les distingue des communistes roumains qui, eux, sont restés en Roumanie et qui ont été enfermés dans différents camps au centre de la Roumanie, autour justement de Dej. Bon, la distinction est un tout petit peu sophistique parce que, comme je vous l'ai dit, en 1944-45, Staline est tellement puissant, il le reste d'ailleurs jusqu'en 1953, que la distinction n'est pas vraiment très fonctionnelle.
D'accord.
Mais donc Dej, c'est effectivement celui qui va s'imposer, qui va devenir secrétaire général du parti communiste roumain. Et il est plutôt de la tendance nationale plus que de la tendance internationaliste. Staline aurait peut-être bien voulu placer la dénommée Anna Pauker, mais comme Anna Pauker a elle-même expliqué à Staline, je ne peux pas être secrétaire général en Roumanie pour deux raisons. D'abord parce que je suis une femme, ensuite parce que je suis juive. Donc ça ne marchera pas. Et Staline cherche quand même un tout petit peu à gagner les cœurs, évidemment, par la contrainte aussi.
Il y aurait comme une voie roumaine d'accès au socialisme qui serait incarnée par ce déj. Et pourtant, il applique un stalinisme orthodoxe, collectivisation des terres, dans un pays qui est très rural, très mystique, très orthodoxe. C'est un stalinien tout à fait orthodoxe.
Oui, comme je vous l'ai dit, il ne peut pas tout à fait... cette distinction est plutôt une distinction d'historien, corporation tout à fait estimable, puisque paraît-il, j'en fais partie. Mais donc, c'est tout à fait sophistique. À la fin des années 40, même au début des années 50, Staline est véritablement trop fort. Et justement, d'ailleurs, ceux qui sont restés en Roumanie et qui ne se sont pas réfugiés en Union soviétique veulent montrer patte blanche et montrer finalement leur adhésion et leur soumission. Donc, Dej est tout à fait un stalinien bon teint. On peut pas vraiment dire qu'il fasse une politique très distincte de ce qu'aurait fait Anna Pauker ou d'autres.
Et mais pourtant, donc, dans les plis de l'appareil, il y a un homme qui monte. Vous nous parlez effectivement de ce marécage communiste, cette tendance qui sont peut-être effectivement millimétrées sur un plan de différence idéologique. Mais il y a un homme, Ceaușescu, dont nous parlons ce soir. Qui est ce Ceaușescu? Vous parlez d'une famille de 10 enfants, une éducation à peu près convenable, un bon primaire en gros, il sait lire et écrire.
C'est ça.
Il va à la ville, il fait une guerre un peu bizarre, il survit à la prison. Alors parlez-nous de Ceaușescu avant Ceaușescu justement.
Oui, Ceaușescu, c'est l'homme de Dej. C'est pour ça que Dej n'est pas très... En fait, c'est l'homme de Dej, mais j'ai envie de dire... C'est l'homme de Dej. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à partir de 1953, après la mort de Staline, Dej va faire une politique, progressivement, de plus en plus nationale. Et il va influencer aussi Ceaușescu. Quelle est la rupture? La rupture, c'est évidemment la réunion secrète de février 1956 du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, durant laquelle Khrushchev critique Staline, et le grand choix, si vous voulez, de Dej, sur lequel va s'aligner Ceaușescu, c'est de ne pas déstaliniser. Sous un prétexte évidemment absolument grotesque, c'est que lui, il aurait déstalinisé lorsqu'il a épuré, en gros, les juifs du Parti communiste en 1952, au moment du complot des blouses blanches. Et donc, évidemment, c'est un argument tout à fait fallacieux, parce qu'en fait, c'est une épuration tout à fait stalinienne, que lui, il fait passer pour un début de déstalinisation du temps même de Staline. C'est complètement mensonger, mais c'est pour zapper, si vous voulez, c'est pour escamoter une véritable déstalinisation et garder finalement le personnel stalinien en place. Ceaușescu donc fait partie...
La dialectique stalinienne peut casser des...
Briques.
Briques, bravo, connaissez vos classiques. Ceaușescu monte dans l'appareil, il se tient prêt. Ce qui a été dans sa vie tout de même, avant effectivement cette guerre d'apparatchik, c'est qu'il survit à la prison, je crois, il survit à la guerre.
Oui, il survit. Bon, il avait déjà fait de la prison dans les années 30.
En 1943, on passait facilement par le fil de l'épée.
Pas tout à fait. D'abord, il avait fait de la prison dans la deuxième moitié des années 30. Il avait été passé à tabac, etc. Comme cela se faisait souvent dans les prisons du régime pré-communiste, le régime d'entre-deux-guerres, qui est un régime assez autoritaire et assez brutal. Donc, il avait déjà fait des séjours en prison dans la deuxième moitié des années 30. Et il passe la guerre dans un camp avec Dej. Et puis les autres, ce qu'on appellera la tendance nationale du Parti communiste roumain, autour de Dej. Il le passe dans un camp. Turgoujé, si mes souvenirs sont bons, oui, je crois. Oui, c'est Turgoujé. Et ensuite, il en sort en août 44... quelques jours avant que les soviétiques rentrent à Bucarest, parce que, contrairement à ce que vous dites, en fait, les communistes ne sont pas passés par les armes aussi facilement par le régime d'Antonescu, pourtant pro-hitlérien, parce que, Antonescu voit bien qu'Hitler est en train de perdre la guerre, c'est un bon militaire, donc il comprend ce qui se passe depuis quelque temps déjà, et donc il sait très bien qu'il va avoir besoin, bah, finalement, des communistes roumains, qu'il préfère éventuellement aux moscovites qui vont arriver avec les chars soviétiques, et donc il ne les persécute pas tant que ça, en fait. Il passe une guerre assez tranquille. Certainement que s'il avait été envoyé au front, il serait mort.
On dit que les mains sales de Jean-Paul Sartre sont inspirées de la Hongrie. En fait, elles pourraient très bien être inspirées de la Roumanie.
Elles pourraient être inspirées de ce que vous voulez. Sartre est un homme très fantaisiste. Mais pour vous parler donc la Roumanie est un petit pays. Il joue la bascule, et Antonescu n'est pas un idiot, même s'il reste jusqu'au bout du côté de Hitler. Et donc, il ménage malgré tout, ne persécute pas, il n'exécute pas non plus, ces communistes roumains dont il sait qu'il aura peut-être besoin, et sinon lui, du moins la Roumanie. Et donc, il les laisse traverser de façon assez tranquille. C'est un régime assez souple. D'ailleurs, ils avaient bricolé une radio et ils étaient informés de ce qui se passait, à l'extérieur.
Marc, il est là. Ce régime communiste qui s'installe dans les années 50-60 autour de Dej a déjà des écrivains, je crois, avant même Ceausescu.
Alors, avant de parler de ces écrivains qui ont admiré ce régime de Dej et de Ceausescu, j'aimerais faire une petite parenthèse très importante. Donc, 23 août 1944, l'armée rouge est sur le sol de Roumanie avec M. Staline. 1945, déjà, cette nouvelle administration commence à se mettre en route et il y a lieu les premières arrestations, les premiers intellectuels écrivains sont arrêtés entre 1945 et 1953 jusqu'à la mort de Staline. Après, il y a eu une période de respiro et 50 après le mouvement contre Staline, contre l'Union soviétique en Hongrie de 1956, Dej a réalisé que les intellectuels, les écrivains représentent une force importante contre lui et son autorité et système mis en place grâce à la présence de l'armée rouge. Et donc, il commence une répression contre les intellectuels et les écrivains de Roumanie. Quand je dis de Roumanie, signifie roumains et des écrivains intellectuels des minorités qui vivaient sur le sol roumain. Il y a eu des Arméniens, des Juifs arrêtés. Il y a eu une répression contre les Tatars et même les Hongrois de Roumanie. Alors, il y a le groupe de Noïka, Constantin Noïka et Dinu Pilat, c'était intitulé comme ça, est resté dans l'histoire difficile, dure, noire de ses premiers 20 ans, 1944-1964. De la dynastie Dej, Gheorghiu Dej, à cause du fait qu'ils ont arrêté une trentaine des écrivains intellectuels en même temps. Ce groupe a été parmi les nombreux écrivains. On peut citer Vladimir Streinu, qui est né dans mon village. Il a subi une répression avec sa famille. Après, il y avait un Achavir Akhterian.
Mais ils n'étaient pas communistes.
Non, ils ne sont pas communistes. Ils sont arrêtés, persécutés, torturés.
Mais alors, qui sont les ingénieurs de l'âme de Dej?
On arrive. Et donc, tout ce groupe des intellectuels qui étaient torturés sauvagement. Après, pour arriver aux écrivains de l'époque de Dej, Bon, oui, ils vont continuer, bien sûr, ils vont exister sous Ceausescu aussi. Il s'agit des écrivains que j'ai étudiés à l'école. Et je cite quelques noms. Kocha, qui était un écrivain d'abord socialiste. Il a fait des études de droit à Paris vers 1900. Et il était un adepte du mouvement pro-Dreyfus. Après, il y a eu Zaharia Stankou, qui est arrivé le président, il est devenu président de l'Union des écrivains de Roumanie, Eugen Jebeleanu, Maria Banouch, Anatol Bakonski.
Sur lequel, je crois, vous voulez nous parler avec plus de précision.
Alors, moi, j'ai traduit quelques quatrains. Maria Banouch, par exemple, j'ai étudié à l'école. Cette occupation soviétique de la Roumanie, Maria Banouch écrivait une poésie sentimentale, subtile. Et une fois qu'elle a compris qu'il y a beaucoup de non-vérités dans ce que le système implémenté en Roumanie, et pas uniquement en Roumanie, ça c'était dans toutes les Europes et les Balkans, c'était mensongère, alors elle s'est éloignée de cette politique, mais bon, elle est restée un certain temps à écrire, elle aussi, des poèmes. À l'époque, il fallait élogier Lénine, Staline, Dej, Ceausescu. J'ai traduit en français, par exemple, un quatrain de Eugen Jebeleanu, qui a été très méchant avec ses confrères non communistes. Donc, c'est un quatrain d'un poème dédié à Gheorghiu Dej. Où est-il et ses frères? L'étendard du parti, l'espoir du peuple, où est-il Gheorghiu Dej avec ses braves camarades?
C'est un peu paresseux.
Un autre écrivain de leur union des écrivains communistes de Roumanie, Marcel Brăslașu, l'hiver a peint des fleurs de glace sur les fenêtres et neige lentement au crépuscule sur tout le camp. Pourtant, dans nos âmes, c'est le matin et le printemps déploie sa douce lumière. Aujourd'hui, Staline, à ses 70 ans, avec des paroles grandioses de flammes et de lave, gloire à Staline, amour et gloire. Et à même période, parce que...
Inhabituel, ce Radio Courtoisie.
Alors, parce que dans cette période, il y avait d'un part les intellectuels et les opposants au système stalinien en Roumanie, mais même les paysans ne voulaient pas de collectif, de kolkhoz. Et donc, eux, ils s'opposaient. Il y avait une chasse à ce qu'ils ont défini à l'époque Kabur.
Kulak,
oui. Était le paysan qui avait un peu plus de 10 hectares. Et donc, avec des taxes énormes et des pressions et de tout, ils ont persécuté ces gens d'une manière très brutale. Et nous avons Anatole Bakonski qui écrit un texte contre les kiabouri. Une nuit passe, une nuit passe, un jour passe encore. La lutte entre les classes s'accentue et les kiabouri se montrent comme des éléments de plus en plus haineux.
Ah oui, c'est subtil.
C'est nous qui voyons ces choses. Mais les kiabouri voient des trous noirs et la flamme de la haine ravive dans leur regard les braises d'amener.
Et en roumain, vous pouvez nous le faire en roumain?
En roumain, oui, c'est même en roumain, c'est intéressant, mais c'est dommage pour leur talent.
Voulez-vous nous le lire en roumain?
Trecio noapte și mai trece o zi, se ascute lupta între clase, iar chiaburii se arată a fi elemente tot mai dușmănoase. Astea le vedem noi, dar chiaburii văd în față negre văgăuni și în ochii lor văpaia urii răscolește blestemații tăciuni. Anatol Baconski un fan de vie très brutal. Il décède pendant le grand tremblement de terre de mars 1977. Il est le père de Todor Baconski, le futur ambassadeur de Roumanie à Vatican, en France, après la chute du mur du Berlin. Je pense que peut-être un jour, monsieur Todor Baconski pourra parler de son papa.
Oui,
juste une petite précision. Vous avez cité l'excellent Kochea et j'invite nos auditeurs à lire Le vin de longue vie qui a été très bien traduit aux éditions Cambourakis. Quand on peut citer. Voilà.
Le vin de longue vie, ça vous va bien, cher Jérôme.
Oui, c'est un très beau texte sur le 19e siècle roumain dans les campagnes. Voilà.
Chose bue.
Une petite précision. Petite précision aussi, les écrivains, disons communistes, étaient bien sûr beaucoup traduits. Mais si nous avons étudié dans le programme scolaire, on avait tous ces écrivains, poètes et prosateurs. Par contre, nous n'avons rien su. Et ce n'était pas possible de lire avant la chute du mur de Berlin sur les autres. Et on ne savait pas qu'est-ce que se passait. Donc, c'était une société divisée. Se passait quelque chose, un secret dans les prisons de cette nouvelle société. Et les autres étaient très valorisés.
Une littérature que nous aurons le temps, effectivement, de développer. La littérature hostile, la littérature en exil, la littérature prisonnière. Toutefois, cher Traian Sandu, Ceaușescu se faufile dans l'appareil et au moment où Dej s'efface, vous nous redonnerez d'ailleurs les dates, arrive effectivement celui qu'on appellera bientôt le Danube de la pensée. Alors comment Ceaușescu parvient-il effectivement à devenir le maître de la Roumanie?
Voilà, donc je vais répondre, mais mon amie Marilena pourrait dire aussi deux mots d'un grand, je ne sais pas s'il marche, lui marche, d'un grand écrivain qui était quand même... proche du Parti communiste, c'est Mihai Sadoveanu. Il n'y avait pas que des chantres un peu ridicules de Staline, il y avait aussi quelques grands écrivains qui s'étaient agrégés autour de cette... autour, il faut bien dire, de ce nouveau régime. Et à un certain moment, bon, dans cette période, surtout avant la prise du pouvoir par le Parti communiste en décembre 1947 et la mise à l'écart du roi qui s'est réfugié à l'ouest, il y a eu quand même un grand écrivain, Mihai Sadoveanu, et le plus grand musicien roumain, Enescu, qui a été à un certain moment dans cet entre-deux, cette période entre-deux, entre 1945 et 1947.
Il y avait aussi Tudor Arghezi et Camille Petrescu, ceux qui se sont convertis. Écrivains.
Mais aussi...
Ils se sont adaptés, ils ne pouvaient plus résister aux pressions, parce qu'il y avait beaucoup de pressions. C'était un choix.
Voilà, c'était un moment un peu ambigu.
Dans les premiers 20 ans, l'attitude la plus non confraternelle, disons, donc c'était très, très... très conflictuelle, la société était très conflictuelle.
C'est ça.
Lucien Blague a été
le philosophe, oui.
Humilié dans les rues, rues de Cloche. C'était possible, c'était diplomate.
Bobino.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Trajan Sandu, Ceausescu, oui. Le dictateur ambigu aux éditions Perrin. Comment Ceausescu prend-il le pouvoir?
Voilà, comment il prend le pouvoir? Bah, écoutez, comme je vous l'ai dit, dans l'ombre de Dej. Et au moment où Dej meurt, bon, Dej a l'impression que Ceausescu est quand même assez limité intellectuellement. Il est quand même très rusé aussi. Et donc, ce n'est pas tout à fait le choix, le premier choix de Dej, un autre monsieur, Gheorghe Apostol, qui est plus terne. Mais Ceausescu s'impose parce que, finalement, le choix du secrétaire général n'est pas, contrairement à la façade, n'est pas l'objet d'une élection démocratique par les structures du parti. Ce sont ce qu'on appelle les barons de Dej, c'est-à-dire 5, 6, 7 personnes de l'entourage immédiat de Dej qui font ce choix, et notamment un homme qui est Jon Gheorghe Maurer. Et Maurer, c'est un proche de Dej, c'est quelqu'un de très intelligent, il a cultivé, c'est un avocat qui a défendu les communistes dans les années 30, qui a des ancêtres français, je crois, alsaciens et allemands. Donc c'est quelqu'un de cultivé. Et Maurer, un peu comme Anna Pauker, en tant que juive, ne pouvait pas devenir secrétaire général au milieu des années 40. Maurer ne peut pas prendre la succession de Dej parce qu'il est allemand. Voilà, allemand et intellectuel. Donc il met en avant Ceausescu, qui lui promet des postes, qu'il promet des postes en fait à la plupart des barons de Dej. Et c'est ainsi qu'il met à l'écart finalement le camp candidat de Dej qui était Gheorghe Apostol. Donc c'est parce qu'il est quand même rusé, il sait faire des promesses aux barons de Dej, et les barons de Dej, c'est un petit peu comme lorsqu'on promeut ces chefs charismatiques que l'on met en avant et que les conservateurs pensent manipuler, on pense évidemment à Hitler et à d'autres, qu'ils pensent manipuler,
et qui en fait
retourne la situation et s'impose au sein de l'appareil de pouvoir. Et donc les barons de Dej pensent en gros manipuler Ceausescu. Ce qui n'est pas totalement faux, ils le tiennent plus ou moins jusqu'en 1974, mais parce que Ceausescu, je réponds à votre question, représente un autre intérêt pour eux, et là il faut le dire, c'est que Ceausescu est nationaliste.
D'accord.
Et donc, dès que j'étais nationaliste en fin de période, donc essentiellement à partir de 1956, 1958, Ceausescu représente la meilleure option parmi les jeunes, c'est-à-dire les quadragénaires, jeunes quinquagénaires, pour reconduire une politique finalement assez anti-soviétique et en gros ne pas faire ce que veulent les soviétiques, c'est-à-dire une organisation d'ensemble de l'empire soviétique et du bloc de l'Est, où la Roumanie ne jouerait qu'un rôle agricole avec la Bulgarie. Les staliniens qui sont restés au pouvoir n'obéissent pas à Khrouchtchev, qui est anti-stalinien, et pour se légitimer auprès de leur peuple, ils utilisent deux leviers, le sentiment anti-soviétique, d'une part, et d'autre part, l'industrialisation, et donc le refus de faire le jeu soviétique et de rester un simple peuple fournisseur de matières premières, notamment uranium d'ailleurs, et de céréales, et un peuple agricole. Donc Dej, ses relations sont tendues avec Khrouchtchev et avec les soviétiques, et Ceausescu représente la meilleure option pour ce groupe finalement assez anti-soviétique, un peu dissident à l'intérieur du communisme, et Ceausescu représente la meilleure option, et ça, Maurer le sent bien, et il promeut Ceausescu. Donc il y a ces doubles axes interprétatifs. D'une part, il satisfait les barons de Dej, il leur distribue des postes, des honneurs, etc. Mais d'autre part, il représente aussi la carte nationale communiste, et c'est ce qui va faire son succès, sa popularité, aussi bien auprès de son peuple, à partir dès 65, dès son arrivée, et aussi vis-à-vis des dirigeants occidentaux qui vont y voir une carte antisoviétique à jouer à l'intérieur du bloc.
Très bien. Ceausescu cherche une légitimité, Ceausescu cherche un socialisme national roumain. Nous avons Luciana ce soir, comme le mois dernier. Et Luciana, vient avec effectivement la poésie roumaine, toute la poésie roumaine. Bonsoir, cher ami.
Bonsoir.
Et vous nous interprétez
Andrei Popa. Cine trece în valea seacă cu angerul fără teacă și cu pieptul dezvelit, Andrei Popa cel vestit, Andrei Popa cel vestit. 7 ani cu voinicie și-a bătut joc de domnie și tot pradă neîncetat, Andrei Popa hoț bărbat, Andrei Popa hoț bărbat. E haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. Zi și noapte tot călare trage bir din drumul mare și din țară peste tot fug neferii cât ce pot, fug neferii cât ce pot. Căci el are o pușcă plină cu 3 glonți la rădăcină și are un murg de 4 ani care mușcă din dușmani, care mușcă din dușmani. E haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. Și are frații de cruce 7 care au sub sânge cu lapte și nu-i pasă de nimic, Andrei Popa cel voinic, Andrei Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. E haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic.
Parlez-nous de la chanson.
Alors, je
rapidement.
Peux oser demander à
non.
Jean. Alors, c'est une chanson sur quelqu'un qui s'occupe des personnes qui ont besoin d'aide, mais un peu, ça ressemble un peu à la vie d'un, ça s'appelle un haïdouk, c'est un peu la vie de Robin des Bois. Donc, ils vont un peu, de manière un peu moins courtoise, à récupérer les biens des autres.
D'accord.
Pour bien les répartir d'après leur avis de manière équitable.
La transition est toute trouvée, puisque Ceaușescu a réussi à se faire passer pour un Robin des Bois roumain en une année, l'année 1968, qui marque l'apogée, le climax de sa carrière politique et de la popularité du régime, Traian Sandu.
Oui, c'est à l'occasion
que
en fait de l'invasion par les troupes du pacte de Varsovie de la Tchécoslovaquie et d'un deuxième coup de Prague, hein, donc en 21 août 1968. Et Ceaușescu, en fait, quelle est l'ambiguïté? C'est un petit peu comme en 1956, où les staliniens ne veulent pas déstaliniser et se font passer pour des réformateurs. Et Ceaușescu réussit à peu près la même chose. C'est-à-dire que Ceaușescu défend Dubček, défend la réforme en Tchécoslovaquie, non pas parce qu'il est réformiste lui-même, il en est le contraire. Il en est l'inverse, c'est un stalinien bon teint, mais comme il s'oppose à l'Union soviétique, eh bien, il est d'une certaine façon l'allié objectif de Dubček, et pour des raisons absolument contraires, hein, puisque Dubček fait une espèce de réforme assez libérale du communisme, hein, le communisme à visage humain, alors que Ceaușescu, lui, c'est un communisme assez dur, industrialiste stalinien, mais en même temps assez populaire parce qu'il est nationaliste. Donc c'est l'ambiguïté. Et donc il se rapproche de quelqu'un qui est un petit peu aux antipodes idéologiques de lui-même, hein, mais ils sont tous les deux anti-soviétiques. Et donc, quelques jours avant l'invasion, il est à Prague pour soutenir l'expérience du printemps de Prague. Et Et donc, le lendemain de l'invasion, le 21 août, il apparaît au balcon du comité central, il fait un grand discours qui est très populaire, où il critique, où il dit que c'est une énorme erreur que d'avoir envahi la Tchécoslovaquie, que la Roumanie s'y oppose. Et là, il est follement acclamé. La population a été rassemblée de façon un petit peu administrative. Un petit peu administrative, mais aussi un petit peu spontanée. Hein, c'est toujours l'ambiguïté de ces régimes qui sont à la fois autoritaires, mais aussi populaires. Il est follement acclamé. Et donc, c'est un moment véritable d'union entre le chef qui est charismatique, qui devient charismatique à ce moment-là, entre le chef charismatique et la population. Donc, il y a cette ambiguïté d'une véritable popularité de Ceausescu, qui en réalité va durer très longtemps. Alors, est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est une réalité? Mais elle dure, je pense, et je ne suis pas le seul à le dire, hein, les historiens qui ont dépouillé les archives comme moi jusqu'en 89 et au-delà confirment la popularité de Ceausescu dans une partie de la population sur cette vieille lancée à la fois stalinienne, industrialiste, mobilisatrice, mais aussi anti-soviétique, nationaliste, donc d'une certaine façon post-56, post-58. Donc il y a cette ambiguïté de Ceausescu, et donc oui, c'est un grand moment pour lui, et ça c'est août 68, mais quelques mois auparavant, en mai, il venait de recevoir De Gaulle, et De Gaulle, puisque en mai 68, De Gaulle a des problèmes évidemment en France, mais il est très bien reçu par Ceausescu, et donc De Gaulle va dans ce sens-là d'une certaine façon. Il est lui-même dans le camp occidental, mais un allié occidental assez critique du maître impérial américain, et Ceausescu est aussi dans le camp opposé, assez critique du maître impérial soviétique, et donc ils se retrouvent, ils convergent finalement dans cette position d'Astérix qui résiste toujours encore contre le centre impérial, et ils sont sur la même longueur d'onde. Donc mai 68, août 68, ce sont des grands moments de Ceausescu, à la fois sur le plan intérieur et sur le plan international.
C'est le succès de 1960 68 du mai et d'août, le mois d'août, de Ceausescu s'origine dans deux mesures que Gheorghe Udej a pris. D'abord, 58, Gheorghe Udej a réussi quelque chose qu'aucun autre pays socialiste n'a pas réussi. Il a réussi à signer un accord avec Khrushchev pour que l'armée rouge quitte la Roumanie, et l'armée rouge a quitté la Roumanie. Autrement, ce n'était pas possible d'être indépendante. Après, Charles de Gaulle a commencé des négociations avec Gheorghe Udej pour qu'il a mis la condition pour cette visite de mai 68, pour condition la libération de tout prisonnier politique. Et cela s'est fait en 1964, un an avant que Gheorghe Udej décède empoisonné.
Merci. Effectivement, Ceausescu apparaît à sa façon comme un De Gaulle soviétique. Multilatéralisme, rencontre avec les dictateurs africains, avec la Chine, avec Tito, avec De Gaulle, avec Richard Nixon. C'est quasiment, et cela peut paraître étonnant, au regard de la caricature du tyran balkanique, comme une star mondiale, bien acceptée, bien introduite dans les chancelleries occidentales, cher Trajan Sandouf.
Oui, oui. Cette image du tyran oriental ne fonctionne pas. C'est plus que ça. C'est un chef charismatique, autoritaire, qui sait être cruel, bien évidemment. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Puisque je continue un petit peu l'aspect un petit peu autobiographique de la chose, mon père a failli se faire exécuter en 52 parce qu'il résistait aussi un peu dans les montagnes, et a sauvé des paysans qui fuyaient dans les montagnes et qui pour résister à la collectivisation. Et après, il a fait partie aussi du groupe Goma, on va en reparler, j'ai vu, du groupe Goma de dissidents dans les années 70. Mais Ceausescu était, comme je vous l'ai dit, il était populaire parce que... Mais attention, la popularité qu'il avait avec De Gaulle n'était pas la popularité qu'il avait avec Nixon. De Gaulle, c'était finalement, comme je vous l'ai dit, un occidental, mais méfiant vis-à-vis du maître américain, tandis que Nixon, c'était le maître américain qui voulait instrumentaliser Ceausescu contre l'Union soviétique. Ce n'était pas du tout le but de De Gaulle. De Gaulle voulait faire l'Europe des nations, donc avec toutes les nations européennes, y compris la Russie, alors que Nixon, ce qu'il venait y chercher, c'était un instrument anti-soviétique oui. en Roumanie. Donc ce n'est pas tout à fait la même position. Mais Ceausescu a profité aussi de cette tendance de Nixon pour notamment coopérer sur le plan économique, essayer d'avoir des technologies occidentales, les transférer et les appliquer en Roumanie, ce qui a permis d'ailleurs à la Roumanie de finalement de s'intégrer aux échanges internationaux et de monter en gamme sur le plan industriel, ce qui était le but de Ceausescu. Donc, il y avait cet ensemble.
Et pourtant, il y a un paradoxe. Au moment où Ceausescu s'éloigne du système soviétique, il a tendance à le copier. On parle de cette visite asiatique de 1971, où Ceausescu se pâme d'admiration devant le culte de la personnalité, devant la persistance d'un stalinisme en Corée du Nord. Il y a effectivement un régime qui se durcit, alors même qu'il semble s'éloigner de l'URSS. Tran semble vous poser beaucoup de questions dans l'ouvrage, et ces questions méritent attention. Première question, est-ce que le régime n'a tenu que par la coercition, la répression de la sécurité ? Sécurité sur laquelle d'ailleurs il faudra dire un petit mot. Sans même dire que non, sans même dire qu'il y a un élément d'adhésion, sans même dire qu'effectivement le régime a su susciter l'enthousiasme. Deuxième question, et là c'est un paradoxe. Ceausescu, en défiant l'Union soviétique, du même coup s'expose. Il s'expose notamment en interne à des menées de l'URSS qui voudraient éventuellement le remplacer par quelqu'un de plus docile. Est-ce que finalement ce mimétisme à l'endroit du stalinisme et de l'Union soviétique, est-ce que ce durcissement du régime, est-ce que cette évolution vers un culte de personnalité n'est pas la conséquence de l'éloignement de l'URSS? Est-ce qu'il n'a pas durci son régime, tout simplement, pour éviter d'être renversé? Deux questions.
Oui, c'est absolument le cas. D'ailleurs, le mimétisme avec le communisme asiatique ne fonctionne pas tout à fait. En fait, ça, c'est le voyage et du printemps 71.
C'est impensif, hein. On dit souvent qu'il a copié l'Asie et tout.
Et en réalité, il avait lui-même commencé à fermer la fenêtre d'opportunité d'ouverture qui avait duré en gros entre 67... 68 et début 69. Et à partir de 69, il se rend compte que effectivement, le fait de libéraliser, ça permettait aux gens finalement de partir et de rester à l'Ouest. Donc, il commence à fermer cette fenêtre en 69, bien avant son voyage de 71. Par contre, vous avez tout à fait raison de dire que ce durcissement et ce qu'on appelle les tests d'avril 71 qu'il a pris au retour du voyage en Asie, mais en réalité le voyage en Asie lui a fait un tout petit peu peur parce qu'il y a vu la révolution culturelle, et la révolution culturelle qui était ce mouvement maoïste pour reprendre la main au sein du Parti communiste chinois, c'était justement des troubles organisés par Mao lui-même, pour écarter une autre fraction du Parti communiste. Et ça, Ceausescu n'en voulait absolument pas. Donc, cette espèce de mobilisation fébrile et violente des gardes rouges chinois, il voulait, lui, l'organiser lui-même à son profit. Donc, ce n'était pas... L'exemple asiatique ne fonctionne pas. Par contre, vous avez tout à fait raison de dire que c'est pour ne pas faire peur aux soviétiques qu'il durcit son régime et qu'il revient à des fondamentaux marxistes par les thèses d'avril, avril 71. Et là, c'est un tournant effectivement culturel. Certains l'ont attribué au voyage asiatique, mais en fait, il avait commencé dès la fin 69 et durant l'année 70.
Qu'est-ce que la sécurité ?
La sécurité, c'est l'appareil de police politique. Alors, la sécurité a plusieurs dimensions, mais à l'intérieur, c'est le comité pour le maintien de la sécurité de l'État. Il y avait
peut-être quelque chose de plus dur que la Stasi, que la police politique, parce qu'il y a beaucoup de légendes dans la sécurité, quand même. Ça fait peur.
La Stasi aussi avait un réseau d'informateurs extrêmement étendu. La Securitate également. La Securitate était brutale. Je vais vous dire qu'elle ne l'était pas, puisqu'elle a passé à tabac mon père en 77. Donc, je ne vais pas vous en dire du bien, mais que je sache, elle n'assassinait pas beaucoup plus que les Bulgares, le parapluie bulgare, ou elle n'avait pas un réseau plus étendu et plus infiltré dans la société que la Stasi, qui écoutait beaucoup de gens, ou voilà, il y avait beaucoup de collaborateurs. Donc la Securitate était certainement... Bon, elle a été brutale. Par exemple, lors de la répression de mouvements sociaux, de mouvements politiques, le mouvement Goma, de... Alors, je laisse la sécurité du temps de Dej et du temps de Staline. Là, elle avait des troupes même militarisées et elle faisait une espèce de guerre civile contre les résistants des montagnes. Mais ça, c'est autre chose. Comme je vous l'ai dit, mon père a aussi failli passer en 52 dans cet épisode-là. Des gens ont résisté longtemps, jusqu'en 56, 57, 58, jusqu'au moment des affaires de Budapest. Quand les résistants des montagnes ont compris que les Américains n'interviendraient pas. Mais la Securitate sous Ceausescu, eh bien, je vais vous sortir un autre paradoxe, c'est que d'une certaine façon, Ceausescu, c'était l'homme de l'armée. Il avait été ministre adjoint de l'armée, et la Securitate, c'était la chose d'un autre apparatchik proche de Dej, baron de Dej, qui s'appelait Alexandre Drgic, qui a failli lui aussi prendre la succession de Dej, et lui, il était à la ministre de l'Intérieur, à la tête de la Securitate, et c'était l'homme des basses œuvres et de la violence politique. Et d'une certaine façon, Ceausescu, il a écarté Drgic après son arrivée au pouvoir en 65, 67, il l'écarte, 71, il l'élimine complètement, et d'une certaine façon, il procède à une mise au pas de la Securitate, qu'il retire à l'autorité de Drgic, et la Securitate est un petit peu un état dans l'état.
Oui.
Et elle surveille même Ceausescu,
oui,
d'une certaine façon.
Le système a ses contradictions internes.
Voilà, puis ce n'est pas l'homme de la Securitate, c'est l'homme de l'armée, Ceausescu.
C'est un système qui est moins organisé qu'on le fait, finalement. Musique.
Alors, je chante une chanson qui s'appelle « Mama ». Car la maman a une très grande place en Arménie, et particulièrement la Vierge Marie.
Pas de parole.
Mulțumesc iubită mamă, steaua mea din zori de zi, fără tine mi-este teamă că planeta s-ar răci. Fără tine mi-este teamă că planeta s-ar răci. Teamă se cătuit de vlagă, mai născut, mai înflorit. Pentru tine, mamă dragă, soarele e nasfințit. Pentru tine, mamă dragă, soarele e nasfințit. Mamă frumoasă, primul meu rai, fă o minune, te rog, mai stai. Dulce lumină, ram de măselin, încă nu-i vreme, mai stai puțin. Mamă frumoasă, primul meu rai, fă o minune, te rog, mai stai. Dulce lumină, încă nu-i vreme, mai stai puțin. Lege tainică a firii, nu pleca fără să mi-l lași. zăcămintele iubirii, mamă suflet uriaș și secretul nemuririi. Mamă suflet uriaș, mamă frumoasă, primul meu rai, fă o minune, te rog, mai stai, dulce lumină, rande-mă serin, încă nu-i vremea, mai stai puțin. Mamă frumoasă, primul meu rai, fă o minune, te rog, mai stai, încă nu-i vremea, mai stai puțin.
Fayan Sandou, il est une mama dont on n'a pas parlé, vous vous doutez bien, c'est bien sûr Elena Ceaușescu.
Oui.
Pourquoi autant de foin, pourquoi autant de légendes autour de la grande chimiste, c'est la mégère de la nation, la mère de la nation?
Oui, bon, on a l'habitude de caricaturer le régime Ceaușescu en parlant d'Elena Ceaușescu, à ses justes titres, parce que c'est vrai que c'était une femme simple comme son mari. Et ensuite, elle a eu des prétentions intellectuelles, elle a passé... Ceaușescu lui-même a passé son baccalauréat avec beaucoup de retard et une espèce de trucage administratif. Sa femme encore plus, puisqu'elle a poursuivi ses études, des études un petit peu, évidemment, en trompe-l'œil. Donc on a l'habitude de se moquer d'elle, à juste titre. Il y a quelque chose de sérieux derrière cette caricature, en dehors de sa personnalité, c'est la promotion du petit peuple, et l'éducation massive des masses. Ça existe. Donc là encore, je ne veux pas me montrer un peu laudateur vis-à-vis de ce régime. Enfin, il faut quand même bien dire que le régime communiste, dans des pays agraires où l'analphabétisme était encore très important dans l'entre-deux-guerres, hein, 50-60%, si mes souvenirs sont bons, eh ben il a éradiqué l'analphabétisme, y compris celui de ma grand-mère, voyez-vous, qui a fait ses 4 premières classes à 60 ans, entre 60 et 64 ans, et mon père me montrait encore un petit bout de papier dans les années 90, écrit par sa mère, il en était très fier. Elle avait fait ses 4 premières classes dans les années 60.
Vous portez sa blouse blanche, d'ailleurs.
Non, pas tout à fait.
Les auditeurs ne peuvent pas le voir. Un mot, chère Marie-Léna. Sur ces écrivains qui, du temps de Ceaușescu, furent les ingénieurs de l'âme. J'aimerais que vous nous parliez notamment d'Adrian Păunescu.
Adrian Păunescu est le plus jeune des quatre noms que j'ai choisis pour illustrer cette période. Lui a été un phénomène. D'abord, il est né en 43. Dans la Bessarabie, qui était à l'époque province roumaine, perdue suite à l'occupation stalinienne de Roumanie, et actuellement... Alors, Adrian Păunescu est venu dans la littérature roumaine des années 70-80, avec un élan, avec une force, avec une puissance de rassembler le public sur les stades, d'abord grande scène, après les stades. Et il a lancé, c'était un grand promoteur culturel, il a lancé lors de ses grands spectacles des musiciens et des chanteurs de musique folk. Ce que Luciana nous a joué à tout à l'heure, c'est une pièce qui date de cette époque Păunescu. Adrian Păunescu a été le roi des spectacles, si je peux dire comme ça, le prince des spectacles.
D'accord.
Il a fait un travail formidable.
Le pendant culturel du national-communisme, finalement.
Oui, exactement, oui.
Et il y a une poésie, je crois, aussi plus abstraite dans le régime, quelque chose qui toucherait plus à la quête marxiste d'abstraction et de pureté, avec notamment la figure de Nikita Ștănescu.
Nikita Ștănescu était aussi un poète atypique pour cette époque, dans le sens que tout comme le romancier Marine Preda. Dans sa poésie, il n'y a pas eu aucune idéologie stalinienne, communiste, socialiste, etc. Donc, Nikita Stănescu écrivait la poésie pure. C'était le lyriste total. C'était un poète aimé par tout le monde. Et c'était aussi un phénomène. Il a eu un pouvoir de création à part.
Et enfin, quelqu'un qui appartient peut-être plus au canon du roman du réalisme socialiste, une sorte de Sholokhov roumain avec Marine Preda.
Marine Preda a parlé dans ses romans de son village, des paysannes, sont les paysans de son village, donc c'est le personnage principal de ses romans, c'est son papa. Dans les romans de Marine Preda, on peut trouver l'essence du paysan. Il était chrétien, il avait peu de terres pour la plupart, leur intelligence et subtilité étaient hors pair. Ils n'avaient même pas besoin des études à l'époque pour discuter et analyser les phénomènes de la société. Marine Preda, par contre, il décède d'une manière brutale en 1980. Moi, j'étais à Bucarest à l'époque. J'ai eu même invitation à son enterrement suite à la publication de son roman, son ultime roman, le plus aimé des terrestres, peux traduire comme ça.
Les terrestres, oui. Comme les terres noires, je ne sais plus quoi.
Oui. Non, comme les terres, comme les pommentins, donc ce sont des gens de la terre, de la planète.
Donc l'accompagnement littéraire de la collectivisation, si on veut.
Et je suppose qu'il a été assassiné.
Pour les ingénieurs de l'âme, quelques noms qui pourraient être lus avec profit. Mais il y a aussi ces auteurs roumains qui vécurent en exil ou qui furent enfermés. Il y a un auteur à Prampaille de l'exil et qui même a écrit tant sur son exil personnel que sur la Roumanie comme étant, depuis la Haute Antiquité, une terre d'exil. Marion Varro.
Oui, tout à fait. Cet auteur, c'est Vintila Horia, hein, qui est un auteur roumain très intéressant, puisque, en effet, lui-même, toute son œuvre va être une sorte de mise en abîme avec lui, donc, son propre parcours, hein, écrivain, diplomate, qui a été condamné, hein, d'ailleurs, par contumace à Bucarest, hein, après la chute d'Antonescu, et qui a publié en français, hein, il faut le noter, en 1960, un roman assez étonnant qu'on a un peu oublié, qui a été réédité aux éditions Noir sur Blanc l'an dernier, qui s'appelle « Dieu est né en exil ». Alors c'est un roman qui est une espèce de mise en abîme, puisque lui-même, Vintila Horia, a été lui-même exilé, exilé du communisme, et écrivain en français, hein, écrivant en français, et c'est une mise en abîme avec la figure d'un autre grand exilé de l'Antiquité romaine, à savoir Ovide, bien sûr. Hein, on connaît l'exil d'Ovide, qui est mystérieux, hein, de l'empereur Auguste, qu'il exile au début de notre ère. Et en fait, ce roman lui vaut le prix Goncourt. Hein. Et là où c'est une affaire très intéressante, c'est que ce prix Goncourt ne lui sera pas attribué in fine, puisqu'il va y avoir une sorte de pression, une violente campagne, hein, orchestrée d'ailleurs conjointement, hein, par le Parti communiste roumain et par une grande partie de la presse de gauche française, qui vont mettre en avant ses écrits nationalistes et d'extrême droite dans sa jeunesse. Et c'est assez étonnant, puisqu'il y a une espèce de chassé-croisé entre Vintila Horia et Ovide. C'est-à-dire que lui, il part de la Roumanie pour aller en France, et il revient finalement par le truchement des mots et du roman en Roumanie, puisque lui, Ovide, c'était le contraire. Hein, c'était le départ de Rome pour aller, on le sait, sur les bords du Pont Euxin, et plus précisément à Tomis, hein, qui est l'actuelle Constanța, en Roumanie, au bord de la mer Noire. Donc, en choisissant en fait cette espèce de parallèle, il superpose, on peut dire, la carte de l'Empire romain à celle du bloc soviétique. Je cite « Dieu est né en exil », publié chez Fayard en 1960, de Vintila Horia. « Auguste m'a chassé de Rome parce que je n'étais plus d'accord avec son organisation du monde. Il voulait un univers de fonctionnaires et de soldats, un ordre géométrique et sans amour. Mon crime fut d'avoir été un homme libre parmi des esclaves satisfaits. » Donc on voit tout de suite quand même le clin d'œil. Hein. L'empereur romain devient une sorte de double, hein, une espèce de secrétaire général totalitaire. Alors ça peut être le stalinisme déclinant ou en filigrane le régime étouffant qui se prépare en Roumanie. Et la Rome d'Auguste, hein, qui est rationalisée, déshumanisée, préfigure en quelque sorte cette standardisation hein, sociétale qui est imposée évidemment par les régimes communistes, où la liberté créatrice est perçue presque comme une sorte de virus, hein, de maladie ou de déviance. On pourrait dire que l'exil d'Ovide, d'Oria, puisque c'est son double quelque part, s'explique justement par le refus catégorique, hein, artistique, d'entrer dans le moule idéologique de cette nouvelle standardisation. Et évidemment, le coup de génie esthétique et même philosophique, on pourrait dire, de Vintila Horia, c'est dans ce renversement du mythe d'Ovide. Hein. Traditionnellement, dans les tries, dans les pontiques, on a ces jérémiades, en quelque sorte, élégiaques. Mais chez Horia, Ovide apprend progressivement à aimer la terre des Jettes, hein, les ancêtres des Roumains. Et il quitte la nostalgie, qui peut être évidemment stérile, pour s'ouvrir à une sorte d'altérité. Hein. Je cite une nouvelle fois Horia, « Ce que j'ai perdu à Rome, je le retrouve ici, parmi ces barbares dont j'apprends la langue. » On voit ici le parallèle avec son expérience en France. « Rome était le mensonge de la pierre, Thomis, et la vérité de la terre. C'est ici, dans ce dépouillement, que mon âme s'est éveillée. » Donc, une sorte de mise en abîme qui est totale, presque ironique, et Horia, qui est un exilé roumain en Occident, qui écrit en français l'histoire d'un exilé romain qui trouve son salut spirituel en Roumanie. Donc l'exil n'est plus une punition, mais une sorte de catharsis. Hein. Le mensonge de la pierre symbolise ces constructions idéologiques grandioses, mais mortifères. Hein. Pour les écrivains de cette génération d'exilés sous Ceausescu, hein, le texte va tracer en quelque sorte une voie. Et l'exil ne doit pas être un ressassement nostalgique de la patrie perdue, mais une sorte de réinvention de soi par la confrontation à une sorte de dépouillement, on pourrait dire, existentiel.
Merci, cher Mario Varro. Ce dépouillement existentiel, on le voit dans cette littérature populaire en France, bien éditée, Vintila Horia. Cher Jérôme Bénard, on le voit également, je crois, dans la pensée. Vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec un nom qui n'est pas forcément familier aux éditeurs, une sorte de Heidegger roumain, Constantin Noica.
Oui, oui, tout à fait. Alors, on ne comparera pas exactement sa pensée à celle d'Heidegger. Mais ce qu'il y a d'intéressant chez Constantin Noica, c'est que ça résume un peu tous les aspects du communisme roumain que nous avons vus depuis le début de l'émission. Donc, il naît en 1909 en Muntenie, donc au sud du pays, à la frontière bulgare, dans une famille aroumaine. Alors, les aroumains sont les roumanophones de Grèce et d'Albanie, que la Roumanie, une fois devenue un État, a accueilli assez largement. D'ailleurs, on peut annoncer qu'un lycée de Bucarest va prendre le nom d'un célèbre historien roumain, mais d'origine aroumaine, Niagu Djuvara, vieille famille roumanophone d'Albanie. Et je pense que sa fille nous écoute probablement. Donc voilà. Autre aroumain, pour les amateurs de football, Hadji. Voilà. Donc les noms sont assez caractéristiques, on les reconnaît. Donc, de 24 en 28, il est lycéen à Bucarest, élève du poète Ion Barbu. Puis, il devient l'élève à l'université en philosophie de Nei Ionescu, qui est un philosophe existentialiste qui fut un des inspirateurs intellectuels de la Garde de Fer, qui est mort en résidence surveillée sous le régime d'Antonescu. De 1938 à 1939, il obtient une bourse avec Sioran et Ionesco pour aller à Paris. Et de 1940 à 1944, il travaille comme référent philosophie à l'Institut culturel roumain de Berlin. Donc, c'est là qu'il va fréquenter Heidegger.
D'accord.
Donc, en 1949, il est assigné à résidence en attendant son procès à Kampulung-Mouchel, qui est une petite bourgade adorable. J'y étais au pied des Carpates.
Et ancienne capitale
on voit qu'il fait de la tôle, on voit qu'il est assigné aux travaux forcés.
Oui, j'y arrive.
Sa pensée.
Ah oui, non, mais sa
pourquoi
pensée.
Pourquoi faut-il lire
Alors déjà, pour le lire, il faudrait que ce soit traduit en français, mais on va y venir. Donc, en 1958, il est condamné, tenez-vous bien, pour indifférence à la souffrance des peuples, à 25 ans de travaux forcés.
Donc, et la
confiscation de ses biens, en fait, au titre de la lutte contre la bourgeoisie. Donc il fait 6 ans de prison entre 1958 et 1964 dans la très terrible prison de Jihlava, qui a servi au régime roumain successif du XXe siècle pour enfermer leurs ennemis. Et il est libéré donc cette fameuse année 64, comme l'a très bien dit Trajan Sandu, par le fait que que notamment le général de Gaulle avait fait pression pour qu'on libère les prisonniers politiques. Et de façon assez heideggerienne, de 75 à 87, il termine sa vie retiré dans un petit chalet des Carpates, dont il disait que ce qui était bien, c'est qu'il était légèrement plus grand que sa cellule à Jihlava. Malheureusement, peu de livres traduits en français, si l'on excepte peut-être Six maladies de l'esprit contemporain, traduction en 1991 chez Critérion avec une préface de Jacqueline de Romilly. Et pour ceux qui s'intéresseraient à sa pensée, puisque nous arrivons quand même au terme de l'émission aussi, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans la notice qui lui est consacrée dans le livre « La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 », paru en 2021 aux éditions du Cerf, sous la direction éclairée de Chantal Delsol.
Merci. Nous arrivons au terme de l'émission. Et effectivement, nous aurons l'occasion de reparler d'autres auteurs qui ont été aux prises avec le pouvoir communiste, notamment Lucien de Balga, notamment Paul Goma, et nous referons une émission complète sur la littérature poétique ou Abraxas, un roman plus contemporain avec Mario Varro, qui est là. Il nous faut parler de la chute de Ceausescu en 2 ou 3 minutes, Ryan Sandu. La chute était-elle inévitable? Le régime aurait-il pu se transformer? Comment s'amorce cette chute? Je crois qu'il y a un fait divers qui met le feu aux braises. Et puis surtout, est-ce vraiment la chute d'un régime? C'est la question que tout le monde se pose. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur cette révolution manquée, sur ce peuple qui a été frustré de son pouvoir, sur cet appareil d'État qui a réussi à se maintenir en coupant sa tête. Bref, beaucoup de questions qui entourent cette chute du régime, et notamment celle-ci, cette dernière. Est-ce que finalement, l'appareil n'a pas connu une pseudomorphose pour se maintenir au pouvoir?
Oui, comme je l'ai dit, Ceausescu a essayé à partir de 1977, hein, puisque c'est un moment important avec... le moment Goma, Paul Goma, que j'ai connu personnellement d'ailleurs, qui parle de nous d'ailleurs dans ses mémoires, puisqu'on était dissidents, participants au groupe Goma. Donc vous avez eu l'année 1977, a été le début de la fin pour Ceausescu, mais j'avais arrivé tout de suite en 89, donc il y a eu cette dissidence Goma, il y a eu une grande révolte des mineurs de la vallée du Giou, et il y a eu le tremblement de terre. Donc ça, c'était trois grands chocs. Et là, après, il s'est engagé dans une course en avant. Et il y avait eu, 2 ans auparavant, 75, le début de la fin de la relation avec les Américains, les accords d'Helsinki. Voilà. Donc, arrivé dans les années 80, en fait, Ceausescu avait, en gros, divorcé avec l'Occident. Il voulait rembourser la dette qu'il avait lui-même contractée auprès du FMI et de la Banque mondiale pour se rapprocher des Américains, pour faire des transferts économiques, enfin des relations économiques, des transferts technologiques, etc. Il s'était pas mal endetté, pas énormément, 10 milliards de dollars, mais ça a été très difficile à rembourser dans les années 80, donc il a perdu de sa popularité. Vous savez que les années 80 ont été très dures, et surtout après 85, en gros, Gorbatchev avait décidé de lâcher l'Empire. Lâcher l'Empire, ce qui est dans l'esprit de Gorbatchev, devait quand même lui permettre de conserver l'Union soviétique sans l'Empire, ce qui était absolument impossible, parce que c'est impossible de garder le centre impérial sans l'Empire.
Et on est en 89.
Et donc Ceausescu, on est en 89, et en gros, ce qui s'est passé, c'est que Gorbatchev a lâché Ceausescu, et peut-être même, il est un peu intervenu en décembre 89, notamment lors de cette manifestation interrompue, avec, oui. Avec le discours interrompu, vraisemblablement des gens des services spéciaux soviétiques à Bucarest, à Timișoara, des services hongrois, etc., ont contribué à semer le désordre. Donc, et évidemment, c'était une étincelle qui a pris très facilement auprès d'une population.
Une révolution de palais.
Pas seulement de palais. Après,
en tout cas, une révolution de palais court-circuite la révolution populaire.
Exactement.
Court-circuite la révolution populaire, pardon.
C'est ça.
Et qui, donc, effectivement, alors que c'est une révolution populaire qui devait renverser le régime finalement se maintient en place. Avec un pouvoir qui est toujours là. Nous avons beaucoup de questions à poser à Ceaușescu, et ça tombe bien, puisque pour la fin d'émission, je pense que son fantôme nous est revenu ce soir. Cher conducator.
Bonsoir, vous m'entendez?
Nous vous entendons très bien.
Enchanté de vous entendre sur mon compte, mes chers.
Ben, je vous en prie.
Oui.
Oui.
Vous parlez, vous m'avez qualifié de dictateur, il me semble.
Oui, en effet, oui, oui.
Ouais, pas moi. Vous y allez.
Moi, je parlais de chef charismatique.
Je n'étais pas un dictateur. Je suis de la grande tradition des conducatori romains. Un peu d'autorité. Un peu de vision, un peu de culte de la personnalité.
Un peu de répression.
C'est ce que vous appelez dictateur en Occident, mais pour nous, ça s'appelle gouverner avec fermeté.
Oui. Je m'amuse aussi à faire ça avec les journalistes. Ils me demandent pourquoi le dictateur ambigu. Pourquoi ambigu, me demandent d'habitude les journalistes. Et moi, je leur dis... Pourquoi dictateur? Parce que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est plutôt un chef charismatique totalitaire et ce n'est pas tout à fait...
J'ajouterais que...
Alors, cher Ceaușescu, qu'est-ce que vous avez à dire ce soir?
Eh bien, je suis enchanté de vous entendre, mais j'ai perdu beaucoup de plumes avec la révolution de 89 et j'ai perdu ma chère Elena, vous savez, dans des circonstances terribles. Elle avait beau crier... Ne tirez pas, je suis comme votre mère, rien à faire. Ah là là. Elle qui collectionnait les doctorats honoris causa, comme d'autres collectionnaient timbres, a été tuée, moi aussi avec, mais vous savez, on est un peu le pays du Dracula, donc moi j'ai pu revenir un peu sous forme de fantôme ce soir.
Pour notre plus grand bonheur, chers amis auditeurs, vive la Roumanie, on ne sera pas célébrer une dictature. Merci Traian Sandu pour ces deux épisodes.
Je vous en prie.
Un grand merci.
Un grand plaisir.
Et tout ce que nous avons à dire, vous serez bien sûr bienvenus pour les dire la prochaine fois, puisque nous avons quand même beaucoup de poètes et beaucoup d'auteurs à évoquer pour les prochaines émissions. Chère Marinella.
Merci, surtout que M. Mitterrand a signé avec Gorbatchev la mort de Ceaușescu.
Entendre le Libre Journal des Littératures dirigé par Hector Burnouf, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 11 juin 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.